c'est toujours la semaine de l'interculturalité au Tanner. Vous êtes toujours avec Bastien et Juliette à la présentation et on va recevoir pour la deuxième interview celle de Xavier Gosset qui est du coup pour la maison des jeux, c'est ça ce que j'ai compris?
Oui, tout à fait.
C'est ça, qui va être interviewé par les deux étudiantes Océane et Edwige. Même principe que celle d'avant, petite question, on va vous laisser la main et puis s'il y a besoin... On va revenir en backup si jamais, mais on vous laisse la parole, allez-y.
Merci. Alors déjà pour commencer, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, alors je m'appelle Xavier, je suis animateur ludique et ludothécaire à la Maison des Jeux de Touraine. Donc nous, on est une association donc, qui travaille sur le jeu, comme son nom l'indique. Nous, principalement le jeu de règles, donc les jeux de société. On a à la fois une ludothèque qui a presque 3000 jeux maintenant et on fait beaucoup d'animations en extérieur autour de jeux gérants en bois, des ateliers de fabrication de jouets, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour du jeu, mais principalement le jeu de règles. Moi, j'ai fait, juste avant d'être embauché à la Maison des Jeux, j'ai fait un service civique là-bas et je viens de la fac des Tanner puisque j'étais avant en master de culture et médiation des arts du spectacle. Voilà, donc c'est... Tous les chemins mènent à Rome. Le jeu m'a appelé.
D'accord.
Bonjour, moi je voulais demander en quoi consiste le métier, je suppose que c'est votre métier du coup, d'animateur ludique et de ludothécaire.
Alors moi je me présente d'abord comme animateur ludique parce que je n'ai pas la formation en tant que ludothécaire et c'est vraiment un métier spécifique. L'animation ludique c'est mettre en jeu le jeu de société, donner à jouer et finalement faire de la médiation autour du jeu, parce que c'est finalement plus compliqué avec le jeu de société, le jeu de règles, c'est la règle. On a besoin de médiation, on a besoin d'animateurs, parce que personne n'aime apprendre des règles de jeu, personne n'aime se manger 15 pages de livret, et surtout il faut inciter ce jeu-là, puisqu'il faut bien distinguer le jeu libre du jeu de règles, et donc le jeu libre tel que les enfants le pratiquent, c'est quelque chose qu'on a tendance à plus délaisser quand on est plus grand. Et ludothécaire, c'est vraiment celui qui accueille le public dans le lieu, la ludothèque. Donc comme dans une bibliothèque, ici on peut emprunter des jeux et non des livres. Et c'est plus un travail de médiation de proximité avec des gens qui viennent régulièrement, essayer de cerner peut-être plus ce public, aller aussi faire un peu une sorte de soutien à la parentalité aussi, puisqu'on est souvent amené à donner des conseils aux parents, à essayer d'un peu décrypter aussi ce qu'ils n'arrivent pas à voir forcément dans l'attitude de leurs enfants. Donc c'est un métier qui est assez complexe, mais c'est un métier qui est bien d'actualité parce qu'on voit beaucoup de publics différents.
Et pourquoi avoir voulu faire ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours apprécié ou ça fait longtemps que vous avez envisagé?
Ben moi, je suis joueur moi-même et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que quand on parle de pratique artistique et culturelle, on ne définit pas forcément le jeu en tant que tel, alors que moi, j'estime que c'est le cas. Alors, à bien des égards, ça pourrait être... un petit peu contredit ce que je viens d'affirmer. Mais en tout cas, moi, j'estime que c'est le cas. Et donc, j'ai voulu un peu faire le lien entre les arts du spectacle tels que je les étudie et tels que je les aime, et finalement le jeu, parce que j'y voyais des liens d'un point de vue purement, on va dire, plastique, mais aussi dans le fait que le joueur est partie prenante du jeu. Donc moi, c'était surtout avec une certaine curiosité que j'y suis allé. Et aussi parce que c'est quelque chose que j'aime transmettre, le jeu. Quand un jeu me plaît, j'aime beaucoup donner à jouer, mais surtout l'accompagner. Et en fait, j'aime beaucoup voir les gens jouer, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les gens en jouant avec eux ou en les regardant jouer. Et c'est aussi peut-être parce que c'est peut-être un des domaines qui favorise le mieux le vivre ensemble en ce moment. Et comme je suis assez sensible au fait qu'on n'est pas tous pareils et qu'on peut tous se réunir autour d'une même table, je pense que le jeu m'a semblé une évidence.
Qu'est-ce qui a encouragé votre venue à la semaine de l'interculturalité pour présenter le jeu?
Alors moi j'étais déjà venu l'an dernier, la Maison des Jeux de Touraine et personnellement j'étais déjà venu l'an dernier pour la semaine de l'interculturalité pour une animation autour des jeux du monde. C'est un peu les ancêtres des jeux de société, les jeux ancestraux qu'ensuite donnaient les échecs, etc. Enfin, c'est des jeux qui sont forts d'une histoire intéressante. Et donc on nous a fait revenir à la Maison des Jeux et j'ai tout de suite accepté aussi parce que je trouvais la proposition intéressante, pour travailler cette fois-ci sur finalement l'aspect littéraire du jeu. Et donc là, ce sont des jeux d'enquête, et avec une forte connotation Agatha Christie et même Sherlock Holmes, donc Conan Doyle. Je trouve ça très intéressant de questionner finalement le rapport aussi entre le livre et le jeu. D'où la présence aussi des livres-jeux en ludothèque, et finalement de la question de la fiction et de l'aspect narratif du jeu. Donc je pense que l'interculturalité, c'est aussi ça, c'est aussi la transversalité dans les domaines, jeu, art, c'est vraiment très, très fluide, je trouve, ce lien. Donc nous, on a tout de suite répondu présent, parce que, notamment parce qu'on a les ressources, on a les jeux pour, et aussi parce qu'on on est assez sensible à créer du lien aussi entre les différents domaines.
Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atelier que vous allez animer dans le cadre de la semaine de l'interculturalité ?
Alors c'est avant tout un atelier autour d'un jeu d'enquête, donc il sera surtout question de coopération, puisque c'est un jeu de déduction coopératif. L'objectif, c'est surtout d'immerger dans un univers, mais de donner à déduire. Donc la déduction, qu'est-ce que c'est ? C'est un travail qui est très intense, puisqu'on va devoir faire des liens entre les choses, on va devoir aller chercher des indices, interroger des témoins, etc. Donc ce sera un jeu qui s'appelle Le Suspect, qui est un jeu qui nous plonge dans la peau d'une un peu une héritière d'Agatha Christie, puisque c'est une fan d'Agatha Christie, mais ce n'est pas n'importe quel détective, puisque c'est la meilleure détective. Donc il y a aussi une petite pression derrière, il faut essayer d'être un peu à la hauteur. L'idée, c'est de faire plusieurs groupes, puisqu'il y a plusieurs enquêtes, et pas de gagnant, pas de perdant. Mais il y a peut-être quand même quelque chose à gagner.
D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que les jeux aussi, ça permet un petit peu de savoir comment sont les gens, de savoir un petit peu à travers les jeux, d'apprendre à les connaître. Est-ce que à la maison des jeux de Touraine, en fonction du public auprès duquel vous intervenez, vous adaptez peut-être les jeux ou les façons de jouer ?
Non seulement on adapte les jeux, mais on s'adapte nous, on adapte l'espace. En fait, jouer, c'est vraiment une expérience de vie. C'est d'ailleurs le jeu des enfants, le jeu un peu symbolique, qui n'est pas un jeu de règles, mais qui est volontaire et qui vient de l'enfant. C'est avant tout la distanciation, c'est vraiment du faux. Donc comme c'est du faux, on peut se permettre d'être différent de ce qu'on est. On peut se permettre de créer un cadre différent, donc il faut aménager l'espace. On peut se permettre de proposer des jeux différents en fonction des publics, comme par exemple adapter en fonction des personnes porteurs de handicap. Et il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est finalement la dimension entre les joueurs. Il faut laisser aussi la place entre les joueurs pour qu'il y ait un espace, un lien qui se crée entre eux, sans forcément qu'on soit trop interventionniste nous-mêmes. Parce que souvent, le jeu peut être cassé quand l'adulte intervient trop. Et ça, c'est un peu une gageure en ce moment, mais on a tendance à demander aux parents de jouer avec l'enfant. Il y a des moments pour jouer avec l'enfant, donc il ne faut pas forcément interdire le jeu avec l'enfant, mais pas forcément le pousser, parce que l'enfant, alors je parle de l'enfant, mais ça vaut pour tout le monde, un jeu n'est plus un jeu si on n'est plus d'accord pour tous jouer. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment toujours être dans la limite. À chaque fois que je présente un jeu, alors là je viens avec un jeu spécifique, les gens vont s'être inscrits, donc ça va être une autre démarche, mais je demande toujours à la fin de mon explication, même pendant l'explication, si vous ne voulez plus jouer, j'arrête là, parce que dans ce cas ce sera plus du jeu, ce sera une contrainte, et la contrainte c'est plus le jeu, la règle et la contrainte c'est bien différent.
D'accord. Et est-ce que ça s'applique beaucoup plus aux enfants ou aux jeunes publics, ou c'est vraiment à tout âge ?
Alors nous, nos animations, c'est pour tous les âges. On est avec tous les publics. On intervient autant en EHPAD que dans des crèches pour faire des jeux, enfin pour proposer, donner à jouer des jeux de construction ou des jeux symboliques. Je pense que le jeu est universel. Donc on intervient aussi avec tout type de public, notamment des personnes qui sont en train d'apprendre le français. Donc ça peut être aussi une manière. Mais le jeu doit toujours rester du faux. Il ne faut pas essayer de se dire que le jeu doit servir à quelque chose. Le jeu sert à quelque chose de fait, forcément. Donc essayer de le pervertir et de changer un petit peu ce point de vue, c'est complètement... trahir le jeu. Donc je pense vraiment que tous les publics sont sensibles à ça. On est avant tout là pour être autre chose que ce qu'on est habituellement, faire autre chose que ce qu'on fait habituellement. Je pense que c'est ça le jeu, c'est un échappatoire, mais qui permet assurément de développer des compétences qui sont réelles, et même si c'est en dehors de la réalité.
D'accord. Puisqu'on parlait de la maison des jeux de Touraine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment est né ce concept et dans quel but ?
Alors, la maison des jeux s'appelle la maison des jeux avant tout parce que l'envie était de mettre en avant le jeu de règles qui émerge de plus en plus. Et on devient la France, je ne sais plus si c'est cette année, où on est devenu les plus grands consommateurs au sens de marché de jeux de société. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un engouement aussi qui est générationnel, mais aussi parce qu'il y a une offre qui est très importante. Donc nous, notre envie, notre statut, c'est de vouloir mettre en avant le jeu comme lien entre les différents publics. Donc l'association existe depuis 2006, a beaucoup évolué depuis 2006. On a changé de locaux, d'équipe, il y a une évolution, mais qui est aussi due à l'évolution à la fois des gens qui ont fait l'association, mais aussi de la société, parce que l'offre n'est plus la même qu'avant aussi, même en termes de propositions. Enfin, les associations qui proposent du jeu sont de plus en plus nombreuses, ont une autre visibilité aussi. Et en fait, on voit fleurir aussi du jeu dans des endroits qui sont plus institutionnalisés. On voit du jeu en médiathèque, on voit du jeu en bibliothèque, on voit du jeu à la fac. C'est bien la preuve que le potentiel du jeu est aussi réactualisé. Donc nous, à la Maison des Jeux de Touraine, on propose vraiment ces deux versants-là, l'accueil sur place avec le jeu qui est toujours gratuit pour nous sur place. C'est toujours gratuit parce que le premier frein serait un frein économique. Donc pour être cohérent dans cette démarche, le jeu est toujours gratuit. Et le deuxième versant, c'est les animations hors les murs. Donc avec différents types de jeux et de jouets, mais surtout toujours dans l'optique de créer du lien, parce que un public qui n'est pas consentant pour faire du jeu, c'est un public qui ne joue pas. Et nous, on met un point d'honneur à faire en sorte que les gens soient toujours avenants avec nous. On essaie toujours d'être avenants avec eux pour qu'il y ait toujours un échange.
Et comment est-ce que vous faites pour que les gens viennent à la maison des jeux ? Comment vous faites pour que les gens en parlent autour d'eux, pour qu'ils aient envie de connaître et de venir ?
C'est une question qui est intéressante à bien des égards. D'abord parce que la ludothèque, ça a souvent longtemps été le lieu pour les enfants. Parce que le jeu tel qu'on l'imaginait, c'est un jeu enfantin, en tout cas un peu puéril, mais on remarque presque aujourd'hui les adultes jouent presque plus que les enfants. Et ça, c'est un vrai problème du fait qu'il y a un manque d'espace de jeu pour les enfants, du fait de beaucoup de contrôle de la part des adultes. Et donc nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un peu de casser cette image-là de la ludothèque pour les enfants. Donc comment on fait ça ? Tout simplement, on est présent à l'extérieur, partout. On fait à peu près 250 animations dans l'année. Donc ça nécessite une présence sur bien des aspects, mais surtout on essaie d'être le plus accessible possible en termes de tarifs, comme j'ai dit, et on a une approche qui est celle aussi de venez, si ça vous convient pas, vous ne revenez pas, de toute façon on est toujours ouvert pour vous. Donc c'est on est un peu les bras ouverts, mais les bras ouverts et plein de jeux. Donc l'offre aussi est intéressante, comme on a presque 3000 jeux, on a aussi une diversité qui se met en place. Et on fait des animations sur place aussi, on met en place des ouvertures publiques exceptionnelles, par exemple les samedis pendant les vacances scolaires. Là, il va y avoir un Noël de la Maison des Jeux avec une brocante et des créateurs qui vont pouvoir proposer, des auteurs qui vont pouvoir proposer des prototypes. On essaie aussi de dynamiser nos locaux qui sont en plus dans un quartier, dans le quartier des Rives du Cher, un quartier au sud, qui n'est pas forcément le plus attractif en termes de propositions culturelles. Donc on essaie vraiment, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément réussi, mais on essaie de mettre l'accent, ça passe par la communication, ça passe par beaucoup de choses, sur la spécificité de ce lieu-là, qui est aussi, on est dans un quartier dit prioritaire. Alors j'aime pas ce terme, mais c'est un quartier qui est considéré comme tel par la municipalité. Donc on essaie de faire en sorte que ce public-là se mélange avec notre public habituel aussi, puisque les deux peuvent cohabiter et le font notamment par le jeu.
Vous avez dit faire beaucoup d'animations en dehors de la maison des jeux de Touraine. Est-ce que vous pouvez nous parler des événements organisés hors des murs ?
Alors nous, on va là où on nous sollicite, voilà, d'un point de vue très, très clairement financier, parce que l'association doit vivre aussi par ça. Donc, si vous voulez, la le plus important pour nous, alors c'est un petit peu un élément de langage de le dire, mais c'est la confiance finalement des partenaires qui nous ont fait confiance une première fois et qui nous font revenir. Ça peut aller de la municipalité, où on a fait par exemple la fête des berges à Véretz, on est venu avec des jeux en bois géants, donc quelque chose de très populaire au sens noble du terme, et très familial, intergénérationnel. On fait aussi des animations régulièrement dans d'autres lieux culturels. Par exemple, on est venu cet été au cinéma studio pendant le marathon Seigneur des Anneaux pour proposer des jeux sur le thème de l'heroic fantasy et donc des jeux de société qui pourraient intéresser ce public-là, mais surtout que le public ne connaîtrait pas forcément, puisque l'objectif c'est d'ouvrir à la nouveauté. On fait aussi, donc, comme aujourd'hui, des animations autour de l'escape game, mais ça peut être aussi des ateliers de fabrication de jouets. Alors là, c'est plus à destination des familles, mais on a beaucoup d'adultes aussi qui viennent fabriquer des jouets. Pour revenir un peu à quelque chose de matériel, vraiment le bout, travailler le bois, faire des jouets qui tiennent dans la durée, parce que souvent les jouets en plastique, non seulement ils sont chers et polluants, mais en plus ils ne tiennent pas. Donc l'idée, c'est vraiment de diversifier et un peu aussi d'inculquer, enfin, de transmettre nos valeurs dès le plus jeune âge, mais surtout de transmettre nos valeurs au plus grand nombre. Donc on fait des animations assez éclectique, on va dire.
Et est-ce que vous apprenez au public à jouer avec les jeux que vous proposez à la maison des jeux ?
Alors, le terme apprendre à jouer m'interpelle un peu, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que apprendre à jouer, nous on considère que les gens savent jouer. La seule chose, c'est avec quelles règles ? Donc, nous on leur transmet les règles, on leur explique que. Alors, c'est aussi pour ça que le terme de jeu de société un petit peu parfois un petit peu entre deux eaux, parce que j'ai du mal par exemple à faire jouer des enfants de 2 ans, puisque un enfant de 2 ans ou 1 an et demi pas forcément déjà conscience du fait que ton tour de jeu et mon tour de jeu, ça va être quelque chose de différent. Il faut que j'attende, voilà, c'est quelque chose de très factuel. Donc finalement ça s'apprend, les règles du jeu en société et les règles du jeu de société. Donc j'ai tendance à dire que nous on transmet des règles à partir du moment où tout le monde autour de la table est d'accord avec ces règles là on peut jouer, mais ce qu'on aime bien aussi, c'est quand les gens créent leurs propres règles à côté et se réapproprient ce jeu-là, parce que ça veut dire qu'ils ont aussi été actifs dans ce processus-là. Le jeu, à partir du moment où on est tous d'accord, qu'on garde ce côté distancié par rapport à la réalité, tout est possible. Donc si tout est possible, ils peuvent même créer leurs propres règles, et c'est souvent très, très agréable à voir, et c'est aussi une petite réussite.
Qu'est-ce que vous faites des jeux qui sont inutilisables ou qui sont abîmés ou que vous ne pouvez plus jouer avec ?
On a la même démarche que pour la mutualisation des jeux en ludothèque. On essaie d'être le plus éco-responsable possible. Un jeu, ça a plusieurs vies. D'ailleurs, quand on voit l'état de certaines boîtes, on se demande s'il y a plusieurs morts aussi. Donc dans les faits, un jeu qui n'est pas complet, on fait le lien avec les éditeurs pour récupérer des pièces détachées des jeux. Qui d'ailleurs, j'invite tout le monde aussi à le faire à titre individuel, parce que souvent les SAV des éditeurs sont gratuits. Donc je demandais une ou deux pièces, ça peut permettre d'éviter de laisser le jeu au placard ou le mettre à la poubelle. Après, quand les boîtes sont trop abîmées, parfois nous on peut rien faire. Mais on essaie toujours, nous on prend tous les dons, on récupère tous les dons, parce qu'on peut toujours compléter un jeu avec un autre. Parce que par exemple un pion qui est un petit peu neutre peut servir dans un autre jeu. Finalement on joue nous aussi, puisqu'on arrive à contrecarrer un peu ça. Je pense que l'objet en lui-même, avant d'être un objet de consommation, il a une histoire, et on peut lui donner une nouvelle histoire, une nouvelle vie comme ça, en l'éparpillant un petit peu.
Moi, je voulais savoir s'il y avait différentes sortes de jeux et qui sont plutôt destinés à un certain public, ou est-ce que c'est vraiment universel pour chacun ?
Je pense qu'il faut distinguer, quand on parle de jeux, je pense que si on parle de jeux de société, vraiment de l'objet jeu, il y en a plusieurs sortes. On parle de catégories de jeux, on a des classifications. Alors nous, on ne l'utilise pas forcément, mais il y a des classifications qui sont basées aussi sur, par exemple, la classification de piaget, qui est basé sur ce que le jeu développe. Est-ce que c'est un jeu symbolique ? Est-ce que c'est un jeu de règles ? Est-ce que c'est dans les jeux de règles et sous-catégories ? Il y a autant de jeux que finalement de profils de joueurs. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est que En tant que ludothécaire, il faut qu'on soit capable de pouvoir être réactif si on se rend compte qu'un enfant ou un adulte même n'est pas forcément en état sur le moment ou n'a pas forcément les capacités sur le moment de pouvoir jouer à tel jeu. Il faut qu'on puisse être attentif à tout ça. Finalement, comme dans beaucoup de milieux culturels, en fait, on fait du social aussi quelque part, on fait de la socio et de la psychologie. Donc je pense que il y a différentes catégories de jeux. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que tous ces jeux-là n'ont comme point principal ou point commun que c'est pas vrai, c'est pas du réel, et c'est justement parce que c'est pas du réel qu'on peut être aussi proche de notre limite, de la repousser en permanence. On peut faire tout, puisque ça n'a pas de conséquences dans la réalité. Donc on pourrait citer voilà, les jeux d'association d'idées où l'objectif c'est d'arriver à se faire comprendre des choses en faisant des liens entre les mots. On pourrait citer les jeux d'adresse où on va empiler des pièces, etc. Mais dans tous les cas, comme ça n'est que du jeu, tout est possible. Et c'est ça qui est magnifique avec le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que tout le monde, enfin, on est de plus en plus nombreux à s'y intéresser.
Et comment vous faites pour choisir les jeux ? Si ce n'est pas des jeux que les personnes vous donnent, par exemple, comment vous faites pour vous dire, par exemple, ce jeu-là, il serait bien, ce serait bien qu'on l'ait et que les gens puissent jouer avec ?
Comme pour finalement le choix des jeux quand on va en animation en extérieur, déjà la première, c'est un peu factuel, mais si on connaît le jeu, on est plus à même d'en parler. Donc généralement quand on veut faire des petites suggestions d'acquisition en disant tiens ce jeu là il est intéressant pour telle raison, c'est mieux d'y avoir joué ou de l'avoir approché. Après il y a des auteurs de jeux qui sont très intéressants pour les mécaniques qu'ils développent et aussi pour le côté politique de leur jeu. Il y a des auteurs par exemple qui se concentrent vraiment sur les jeux coopératifs parce qu'ils défendent cette idée là. Donc moi je suis assez sensible à la question des auteurs. Les questions des éditeurs aussi. Finalement, il y a des éditeurs qui mettent beaucoup l'accent sur les illustrations de leurs jeux, sur le côté réellement mise en scène du jeu, avec une mise en scène qui peut être visuelle, une mise en scène de l'espace. Je pense qu'on a un peu tous notre manière de juger un jeu, comme on a un peu tous notre manière de juger un film, un livre, ou tout ce qu'on pourrait avoir devant les yeux et dans les mains. Donc, Moi, je suis plutôt sensible à la question des auteurs parce que souvent se dessine un peu, comme on pourrait dire, une ludographie. Il y a des idées, il y a des idées qui sont un peu dans l'air, et je suis assez sensible au fait que, même sans le savoir, les joueurs le seront aussi. Parce que quand on joue, en fait, c'est jamais anodin. On ne fait jamais que jouer, sauf qu'on s'en rend jamais forcément compte.
Puisque vous êtes une association, comment vous parvenez à financer vos jeux, vos événements
Alors nous, on est principalement financé par les subventions qu'on va chercher un peu voilà, partout, le département, la région, etc. Et puis les animations extérieures qui sont en réalité, on est des prestataires hein, d'un point de vue technique. C'est pour ça que non seulement la confiance de nos partenaires est importante pour qu'on puisse continuer à vivre économiquement, mais aussi pour pouvoir transmettre ses valeurs. C'est essentiellement ces deux points qui font vivre l'association. Après, il y a aussi les adhésions des membres de l'association qui s'abonnent à la ludothèque, etc. Mais principalement, ces deux volets ressortent.
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Non, tout est très clair.
Moi, je pense que j'ai une question pour finir. Est-ce que vous avez remarqué un déclin des joueurs à cause du développement d'Internet et donc des jeux virtuels ?
Je pense que c'est le contraire. Ouais. Je pense que les deux sont complémentaires parce que d'un point de vue strictement financier et sociologique, les joueurs qui jouent le plus maintenant sont les enfants des années 80, 90, 2000 maintenant. Donc ils transmettent cette passion-là et je pense que quelque part c'est la même chose pour les jeux vidéo et pour Internet. C'est-à-dire que c'est une nouvelle culture, une nouvelle manière d'appréhender les autres cultures aussi. Et vraiment, les auteurs aussi sont un peu dans cette optique-là, finalement, de transmettre cette... maintenant, ça devient une carrière, en fait, d'être auteur de jeux. Donc je pense que c'est complémentaire, et j'ai même envie de dire que y a de plus en plus de liens qui se font entre les deux. Des jeux de société qui vont chercher du côté des différents sens, comme des jeux avec des casques, des jeux avec de la réalité virtuelle, etc. Il y en a de plus en plus qui vont chercher de ce côté-là. Donc je pense que les jeux vidéo et les jeux de société ont un bon avenir en commun.
D'accord. Pourra te revoir dans Sortez, ce serait hyper cool. Et du coup, un petite interview, on va se laisser pour une pause musicale, ce qui est prévu là. Et après, on se retrouve juste après avec la première chronique interculturelle sur conférence BRICS. Et du coup, les étudiantes qui s'occupent de cette chronique, en fait.
Je vous remercie.
Merci à toi.
Merci à vous.